Une station créée pour les gens de Québec. Pas de script, pas de personnage, pas de rire en canne, de la spontanéité à l'état pur. Ici, la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse.
That's amazing.
Et jouer la musique que vous aimez.
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes pis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
You didn't know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. En espérant que vous ayez passé une belle journée, on va passer certainement 60 minutes de feu ce soir puisqu'on va parler du merveilleux monde de l'automobile. Ce soir, cette nuit, côté météo, on nous parle de température stable à près de plus 1 degré pour ce qui est de demain, mercredi. Bon, on parle d'averses de neige parfois fortes devenant mêlées avec un peu de pluie, de ce que je comprends, en après-midi. Ça va être un drôle de cocktail pour ce qui est de demain. Accumulation de neige de 2 cm avec un maximum de plus 3 degrés. En soirée, c'est les averses de neige qui devraient cesser vers minuit, minimum de moins 6 degrés. Jeudi, ce sera ensoleillé avec un maximum de plus 4 degrés. Et vendredi, ce sera de la neige intermittente, maximum de moins 1. Ce soir, Samuel Tremblay-Michaud de l'émission RPM va être avec nous. On parlait du merveilleux monde de l'automobile, mais aussi des camions. On va bien entendu parler des véhicules électriques sans aucun problème. On a quelques statistiques intéressantes pour vous autres. Marceau, soir, ça débute maintenant. Bonne soirée.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, salut!
Allô!
Comment ça va?
Quel plaisir d'être là!
Ben oui, ça fait combien de mois que t'es chez RPM? Là? Est-ce que ça se détermine en année maintenant?
Mais écoute, j'ai été chez RPM, ça fait trois ans que je travaille en collaboration avec RPM.
Ouais.
Mais ça va faire un an que là, je suis temps plein avec l'équipe.
Est-ce que tu te pinces encore?
Oui, tous les jours.
Oui, tout va bien de ce côté-là.
Ah oui, tous les jours, je réalise mon rêve de petit cul.
Ouais.
Fait que je parle de char, puis je suis maintenant journaliste. Automobile.
Ta passion pour le merveilleux monde de l'automobile, c'est... t'as commencé ça jeune. C'est-tu ton père qui t'a initié à ça? C'est-tu un oncle qui t'a initié à ça?
C'est une bonne question parce qu'il n'y a absolument rien de connexe dans ma famille, dans l'univers automobile.
OK.
Tu sais, j'ai pas un père tripeux de voitures plus que ça. J'ai pas de mon oncle professionnel de la course. J'ai de la famille qui avait eu des concessionnaires automobiles, mais tu sais, éloigné un peu quand même. Tu sais, je voyais pas tous les jours nécessairement, mais ça a comme parti naturellement.
T'as-tu demandé à ta mère si le laitier était un passionné d'automobile?
Une question que j'aurais pu poser. Non, c'est vrai, parce que même mon frère, c'est, tu sais, moi, à 17 ans et un jour, j'avais mon permis de conduire. Là, c'était le plus vite possible que je pouvais l'avoir. Mon frère, il l'a eu à 22 ans, mettons, son permis de conduire.
Lui, il était pas pressé.
Non, exact. Non. Mon père aime les voitures. Toujours eu quelques voitures ici et là.
Ouais.
Mais moi, quand j'étais jeune, je jouais avec mes tapis d'auto. Là. Puis là, j'alignais tous mes chars dans un trafic continuel. Puis là, je leur donnais des raisons de tourner à gauche. Lui, il allait chercher son fille, sa fille à la garderie. L'autre allait là, l'autre allait là. Moi, j'ai joué avec mes petites voitures. Puis là, je nommais tous les modèles, toutes les sortes. Puis là, je mettais les chars qui allaient plus vite en avant.
Wow.
J'ai toujours aimé l'automobile.
C'est avec comme... les années, le psychiatre, as-tu réussi à faire un bon travail?
Non, pas tant que ça.
Donc, c'est Samuel Tremblay-Michaud d'RPM que vous pouvez voir à la télé puis que vous pouvez lire ses chroniques, bien entendu. Je suis content que tu sois là avec nous. J'ai plein de questions à te poser. J'ai vu un article du 24 heures. Si je ne me trompe pas, c'est ce matin où on se posait la question à savoir pourquoi les petits véhicules ont disparu de nos concessionnaires automobiles. Et je trouvais ça intéressant, l'article, puisqu'on disait que c'est maintenant l'industrie qui disait que tu as les besoins des clients, alors que j'ai toujours pensé que c'était le contraire. Toi, tu as lu cet article-là aussi dans le 24 heures. Qu'en penses-tu?
J'aborde dans la même direction que tout le monde. Parce que, tu sais, tout le monde dit... Puis je vais résumer la pensée globale. Les constructeurs mettent de plus en plus de VUS sur les marchés. Je vise les VUS, mais je devrais dire des véhicules qui sont plus gros parce qu'on peut les vendre plus cher et on a une meilleure marge de profit. Simplement. Il ne faut pas chercher des poux à gauche puis à droite. Pourquoi ça arrive? On fait plus d'argent en vendant des VUS que des tout petites voitures. Simplement, c'est aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que ça répond aux besoins des gens? Ça, c'est une question qu'on peut vraiment se poser actuellement parce que j'ai l'impression que maintenant, pour tout le monde qui habite n'importe où au Québec, on se dit on a besoin d'un véhicule intégral. Ça nous prend un véhicule avec une transmission 4 roues motrices.
Ouais.
Ça nous prend ça. C'est même plus un luxe ou une option, c'est un besoin qu'on s'est créé. Puis ça, je pense que ça vient beaucoup aussi de nous, les consommateurs, à quelque part, qui sommes tombés dans ce panneau-là. T'sais, on est tombé rapidement dans le panneau de « Ouais, un char 4 roues motrices, c'est vrai que l'hiver, c'est le fun puis que c'est plus facile de décoller au stop. » Fait que moi aussi, j'ai besoin de ça pour aller faire mes commissions la fin de semaine à l'épicerie. Puis moi, je me rappelle de l'époque où on se promenait tous ensemble avec des Toyota Echo, des Tercel.
C'était tous des petits véhicules, des Hyundai Accent.
Des Hyundai Accent, grosse poche. D'ailleurs, ouais. la Hyundai Accent, elle avait été dévoilée ici, à Montréal. C'est là qu'on l'avait dévoilé au Salon de l'Auto de Montréal, la première nord-américaine de ce véhicule-là.
Ah ouais.
Parce qu'au Québec, on achetait des accents. Puis nous, on aimait ces genres de véhicules-là qui étaient beaux, bons, pas chers.
Oui, puis c'était 9 999.
Ça coûtait rien, tu sais. Puis honnêtement, au bout de la ligne, ça faisait le travail pour bien des gens. Puis on a comme perdu, on dirait, cette vision-là dans « Ah, mais là, j'ai deux enfants, fait automatiquement, ça me prend un VUS 7 passagers. »
Oui, bien, tu sais, moi, je fais partie de cette gang-là. Tu sais, quand j'ai vu le Wrangler Sport 2-portes, je dis « Ça va être mon véhicule, là. » Je pensais juste à moi, tu sais, dans ma tête, là, célibataire, pas d'enfants. J'avais oublié que j'avais une blonde, j'avais oublié que j'avais des enfants. Fait que je dis « Je vais acheter ce véhicule-là, c'est fait pour moi. » Puis je vais t'avouer que parfois, tu sais, quand je passe de la campagne à la ville ou de la ville à la campagne, puis j'ai besoin d'embarquer avec moi les deux poches de hockey, plus les deux bâtons de hockey, plus les deux gars, dans le Wrangler Sport 2-portes, là, ça commence à être serré.
Mais c'est parce qu'il y a un entre-deux là-dedans.
Ouais.
Tu comprends? Tu sais, là, tu as comme acheté la Miata, la MX-5 du VUS, tu sais, qui est très compact. Mais il y a un petit VUS qui peut peut-être faire ton affaire aussi, mais qui va être plus spacieux pour répondre à tes besoins.
Ouais.
Tu sais, le Wrangler en tant que tel, c'est pas nécessairement un produit qui est réputé pour son espace, justement. Fait que si on travaille dans cette espèce de réflexion-là, moi, je pense qu'il y aurait des voitures, Nissan Sentra, par exemple, qui pourraient faire en masse la job.
Oui, mais au niveau de testostérone, on dirait que ça dit pas la même affaire.
Écoute, achète-en un SR avec le toit noir manuel, on s'en reparlera.
OK. Mais parlons de testostérone, parce que j'en ai pris pour mon rhume dans les dernières semaines. Pour les gens qui suivent mon histoire sur les ondes hertziennes, j'ai fait un accident. J'étais sur l'autoroute, puis j'étais visiblement sur une plaque de glace, puis quand je regardais en face de moi, je voyais au loin qu'il y avait un carambolage. Fait que je me suis dit, OK, il se passe quelque chose. Là, je vois les véhicules qui sont en face de moi qui commencent à ralentir. Puis là, tout d'un coup, les voitures en face de moi, d'un bord et de l'autre, commençaient à varioler un peu. Puis ils ont commencé à tournoyer. Puis ils se sont ramassés dans ce dit carambolage-là. Puis là, j'ai dit à mon gars, je dis, Zach, nous autres, on va se picher dans le banc de neige. Ça ne tentait pas de rentrer dans toute la gang. On roulait peut-être... je suis rentré dans le banc de neige, je devais être à peu près à 40 et 50 km/h. Mais assez suffisant pour que la roue de ma voiture avant côté passager, elle a pogné le banc de neige, ce qui fait en sorte que j'ai fait un 180, puis j'ai embarqué sur le remblai de neige du déneigeur.
T'as levé.
J'ai levé, mais j'ai flippé.
T'as fait un tonneau?
Oui, j'ai fait un tonneau avec mon Wrangler. Puis, curieusement, tu sais, tout ce que t'avais laissé traîner au sol se ramasse au plafond. Puis après ça, ben, quand t'en reviens sur les quatre pattes, ben, tout ce qui est au plafond redescend. Fait que mon gars s'est ramassé avec un 2$ dans ses bottes. Puis la remorque est venue me chercher au bout de 3 heures parce que j'étais pas prioritaire, j'étais pas dans le chemin. Et il a sorti mon véhicule. Je suis reparti avec mon véhicule comme si de rien n'était.
Ouais.
Parce que c'était de la neige folle. Puis en plus, ben, c'était un Wrangler. Et là, ils m'ont passé, je ne sais pas si je vais le redire encore sur les ondes, mais ça fait mal à chaque fois, ils m'ont passé un grand caravane, puis j'aime ça.
C'est, non, mais j'ai aucune idée pourquoi tu es gêné de ça.
Ouch!
Non, mais Yannick, je suis, et mon collègue Samuel Lessard, chez RPM, et moi, on est les deux plus gros défenseurs des caravanes.
Là, j'ai un grand caravane. Mon Wrangler est au garage parce qu'il faut que le hood ait été un peu abîmé. Là. Puis il faut qu'il débosse ça. Mais le grand caravane, j'embarque là-dedans tous les matins. Puis je suis heureux.
C'est le fun, hein?
Je pensais pas être heureux dans un grand caravane.
Ah oui, on est bien, hein?
Puis là, je m'appelle Mononcle Yannick maintenant.
Ah oui, j'adore
ça. Tous les matins, je me regarde dans le miroir. Bon, Mononcle Yannick qui s'en va prendre son grand caravane. Caroline, comment ça? J'ai pas découvert le grand caravane avant. Mais je suis un gars qui tripe sur le Wrangler.
Oui.
Mais je manque de place. Fait que là, mon prochain véhicule, Sam, tu comprends que ça va être... tu sais, j'ai une variété, j'ai une bonne gamme de véhicules que je peux m'acheter. Mais il va falloir que ce soit un VUS, possiblement.
Oui, oui, pour avoir de la place. Parce que tu
pour avoir de la place.
Mais t'aimes ça, ton grand caravane.
Oui. Mais si j'étais juste en ville, Sam, ben là, ça dépend. À Montréal, on n'a pas nécessairement besoin de véhicules pour se mouvoir là, si tu habites au centre-ville de Québec, de Montréal en tant que tel. Mais si tu habites au centre-ville de Québec, peut-être, oui, un véhicule. Je pourrais peut-être acheter un petit véhicule, Sam. Mm. Mais en même temps, quand je pars, quand, des fois, je suis à Montréal, des fois, je suis en Beauce, j'ai pas le choix. Là. Faut que ça me prend quelque chose que je puisse voyager puis être bien.
Ben, je comprends, mais encore une fois, puis moi, j'en viens toujours sur ce besoin-là. Tu me tireras des rushs si tu veux, mais le vrai point de base, c'est le besoin.
Ouais.
Quand tu me dis que tu as des poches de hockey à transporter, tu as deux gars embarqués, je l'entends et je le comprends. L'affaire, là, c'est que tu achètes, mettons, là, un Corolla, oui. All-wheel drive hybride. Là.
Oui.
Ça a un gros coffre. Là.
Oui.
Tes poches vont rentrer dans le coffre sans problème. Puis tu vas me dire, mais les bâtons, j'ai mis où? Ben, l'assise du milieu se plie et tu vas pouvoir rentrer les bâtons dans la cabine. Tes deux gars vont pouvoir s'asseoir confortablement dans le chacun un siège. Toi, dans l'avant, tu vas piloter ça. C'est quatre roues motrices pour l'hiver parce que, mettons qu'on met de l'eau dans mon gaz. Puis je te dis, gars, écoute, je vais te donner quand même l'option du quatre roues motrices.
Ouais.
Ça existe en hybride. Tu vas consommer à peu près 6 litres au 100. Puis tu vas avoir un produit qui va être durable au fond.
Ouais.
Tu vas payer ça peut-être 5, 6, 8, 10 000 moins cher qu'un équivalent hybride. Mais plus que ça, si tu prends un hybride dans le VUS, tu sais, ça va être rendu du 45 à du 50 000. Là, je te parle d'un véhicule autour de 36. Fait que la différence de prix dans le besoin, je pense qu'il y a beaucoup de voitures qui le font encore très bien aujourd'hui, mais qu'on est rendu gourmand. Parce que tu sais, quand tu dis « ça me paraît un VUS », c'est parce oui. que c'est le fun de rentrer du stock dans un VUS. Hein. T'as beaucoup de place, t'as pas à te casser la tête de rien, t'as pas à repositionner la boîte des Kleenex pour être sûr que tout rentre bien dans l'auto. T'sais. T'es capable de juste garrocher ton stock, partir avec ton véhicule, puis te dire « c'est réglé, je suis bien avec ça ». Puis ça, c'est un luxe. Puis l'affaire, c'est que j'ai comme l'impression qu'on vit un peu dans un monde où tout le monde aurait accès à ce luxe-là. Puis là, ça crée des gens qui vont mettre des voitures sur des paiements de 9 ans, mm-hmm. des paiements de 7 ans, à côté au bâton, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir ce luxe-là, mais on essaye de donner l'image à tout le monde qu'on peut s'offrir ce genre de gros véhicules-là. Puis c'est là que moi, j'ai de la misère des fois.
Mais tu viens de me démontrer toute la pertinence d'aller faire un tour une fois de temps en temps sur RPM pour voir vos chroniques. Des gars qui essayent ces véhicules-là, ouais. qui sont capables de dire à qui peut convenir ce type de véhicule-là versus à qui ça peut ne pas convenir. Tu sais, moi, ces enfants-là, ça m'a pris 30 secondes à faire chaque bord.
Ouais.
Tu comprends? Puis là, je pognais avec ça toute ma vie, ces enfants-là. Puis là, c'est rendu qu'il faut que je choisisse un véhicule pour faire fitter ces enfants-là avec leur poche de hockey puis le bâton. Puis là, toi, tu m'expliques en 30 secondes ce que je pourrais avoir. Est-ce que moi, ça pourrait prendre peut-être un an à choisir le véhicule que je devrais avoir pour les prochaines années? T'sais?
Puis je le dis tout le temps, puis j'essaie de le répéter souvent, mais tu sais, magasin de voiture, c'est encore plus que jamais, à mon humble avis, important.
Ben oui, c'est
un gros achat.
T'as ta voiture puis la maison.
Encore plus que jamais.
Ouais.
Hey, v'là 4 ans, la moyenne d'achat canadienne d'un véhicule neuf, là, c'était autour de 36 000 $.
Là, ça a doublé.
70. On est à 70 000 à peu près. Là. Je ne suis pas assez près, je pense que c'est 68 500. Là. Mais à peu près 70 000 $ le coût moyen d'un véhicule acheté au Canada en 2024, c'est tellement de l'argent. Puis on parle d'une moyenne, là. Fait qu'il y a des gens qui ont acheté plus haut que ça, puis pas mal. Puis il y a des gens qui ont acheté pas loin de ça, beaucoup aussi, tu sais. Des gens autour de 50, 55, 60, 45. Mais, tu sais, à 45 000, moi, j'en remonte encore, il y a 4 ans, là. Tu rentrais chez Audi, là. Tu sais, t'avais un Audi
A4. Vrai. Ben
puis,
oui.
Tu sais, tu choisissais les options un peu dedans, puis t'étais content. Ouais. Puis là, t'arrives au party de famille, puis les gens étaient comme, hey, wow, t'as acheté un beau Audi. Hein,
t'as réussi.
Tabarouette, la star, t'arrives avec un Sonata bien équipé.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est capoté.
Ça va
là.
Super vite. Mais pour en revenir aux petits véhicules, on fait souvent la comparaison avec l'Europe. On n'a pas le même climat non plus, tu sais. Puis on regarde les petits véhicules en Europe, là, tu dis, bon, ils sont cute, là, mais. Sur les routes du Québec, ça fit dessus.
Ben, tu sais, j'ai voyagé...
T'as de l'air d'un suppositoire.
Ben, j'ai voyagé quelques fois, mettons, au Danemark.
Ouais.
Puis, tu sais, c'est un climat qui est pas semblable exactement à ce qu'ils ont moins d'hiver maintenant. Là. C'est honnêtement des hivers qui sont très printaniers, mettons. Là.
Ouais.
C'est plus ce que c'était. T'sais, ils ont déjà eu beaucoup de neige, mais avec les changements climatiques, clairement, ils ont moins de neige qu'ils ont jamais eu. Mais ça reste que, tu sais, c'est des routes qui ressemblent un peu à ce qu'on va avoir ici, très sinueux, dans le bois, tu sais, avec des longs partiels d'autoroutes très droites là, dans la forêt, des choses comme ça, tu sais. Puis. T'as beaucoup de voitures familiales là-bas. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des bonnes vieilles Golf Sport Wagon comme nous, on a déjà eu ici, qu'on a pu. On va avoir des versions de la Mazda 6 familiale. Ils vont avoir des véhicules qui sont des voitures avec une espèce de une coupe haillon à l'arrière pour avoir justement de l'espace supplémentaire, mm-hmm. mais être capable aussi d'avoir un véhicule qui reste assez économique dans l'ensemble de l'œuvre.
Ouais.
Parce qu'il faut ce qu'il faut aussi mettre en évidence, c'est que oui, nos routes sont pas évidentes l'hiver. C'est vrai que l'hiver, ça peut devenir rapidement... Tu sais, tu as vécu un accident il n'y a pas longtemps, ça devient stressant aussi. Puis c'est vrai qu'on se sent juste plus gros dans un VUS. On se sent plus en sécurité. Ça, c'est un sentiment, d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs VUS qui passent même pas les tests parfaitement de la NHTSA, là, qui est l'espèce d'institution américaine qui surveille les collisions de véhicules.
Ouais.
C'est la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA. Puis eux, dans le fond, ils font des tests chaque année pour tester justement les carrosseries des véhicules, la structure, est-ce qu'on est capable de bien rendre tous les occupants en sécurité à l'intérieur, est-ce que les ceintures fonctionnent bien, est-ce que les airbags se déploient bien. Puis il y a plusieurs VUS de grande taille qui ont des notes très médiums. Ils vont arriver dans le milieu, ils vont avoir la note acceptable, ils vont passer tout juste à la fesse des fois. Puis c'est pas parce que t'es gros que t'es nécessairement plus en sécurité, mais ce sentiment-là, il est perceptible derrière le volant, ça c'est clair. Maintenant, quand tu compares avec l'Europe, tu te dis, ben eux conduisent des voitures qui sont probablement plus économiques sur toute la ligne, parce qu'ils sont souvent diesel en plus, fait qu'on essaie de couper sur le gaz. Des voitures qui ont des plus petits pneus, fait qu'on a moins besoin d'acheter des grosses roues. Puis je sais pas si tu as magasiné des pneus dernièrement, puis on arrive dans la saison des pneus d'été.
Ah, ça m'a coûté 2000 là, pour le Wrangler.
C'est incroyable comment les pneus aussi ont augmenté de prix. Ouais. Puis ça, c'est des affaires que des fois, les gens réfléchissent pas. T'sais, quand tu achètes un VUS, tu le finances sur 9 ans avec un taux de financement à 5 %, puis tu te dis, je m'accote parce que je veux un VUS, mais quand tu es rendu à mettre 2 500 $ de pneus d'hiver dessus, là, c'est pas le fun. Là.
Non, c'est la carte de crédit.
Ça devient stressant. T'sais.
Ouais.
Puis ça, c'est des choses que des fois, on réfléchit pas. Je comprends l'état des routes, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on essaie de se donner des sentiments, puis on se donne nous-mêmes, entre nous, on se crinque. Et moi, ça va tellement bien, je peux tellement rouler confortable l'hiver dans mon gros VUS. Si tu breaks, là, c'est le même problème que tu vas avoir.
La même sensation.
La même sensation.
Ça n'arrête pas.
Puis plus t'es gros, plus c'est dur à manœuvrer aussi.
Ouais.
Si ça glisse, c'est plus stressant. Dans un petit char, si ça glisse, t'as plus de contrôle derrière le volant.
Ouais. Moi, j'ai eu le réflexe de m'aligner sur le
banc. C'est un bon réflexe, je pense. Hein?
Puis oui, mais c'est juste que mon gars, il capotait un peu quand le véhicule a tourné, mais il était content de retrouver un deux piastres dans ses bottes.
Pas moché non plus.
On a bien ri. Non, on était correct, on était attachés les deux. T'sais, ça a tellement tourné lentement parce qu'on a pogné le remblai de neige, la neige folle. T'sais. Ça a tellement
ça
tourné
ralenti
lentement
quand même rapidement.
Que j'avais le temps de dire ça va bien aller dans le véhicule. Puis il a dit OK, papa, je m'en souviens comme si j'étais en train de le revivre là. Mais c'est ça. Il va falloir que je laisse aller mon grand caravane qu'ils m'ont prêté dans les prochains jours pour retrouver mon Wrangler. Puis je vais être triste de perdre ce grand caravane-là. Puis tu sais, dans la course chez Enterprise, pour ne pas les nommer, là. Il y avait juste des petits véhicules économiques qui restaient, puis le grand caravane, puis j'ai pris le grand caravane. J'ai pris le grand caravane.
Encore une fois, tout est une question de moyens puis de possibilités.
Oui, je sais, mais mettons que j'avais été étudiant, je partirais avec les véhicules économiques, mais visiblement, c'était pas le premier choix des gens qui se présentaient chez le locateur d'auto. Les gens sont partis avec les VUS.
Moi, je suis à l'inverse. Dès que je rentre dans une entreprise de location de véhicules, je cherche le plus cheap de la gang.
Ouais. Mais t'es un cheap aussi.
Oui.
Non, mais économiser. Pour ça, t'es riche
de
même.
Non, mais c'est riche. Mais c'est aussi économiser de l'argent sur le gaz. T'sais, moi, j'essaie de penser à ça. Souvent, c'est des voitures que je loue pour faire la grande route aussi. Fait, j'essaie d'optimiser le plus possible ma consommation de carburant également. Mais dans les vannes que tu regarderas, là, si tu magasines, là, parce que tu veux un look, je comprends. Tu veux quelque chose qui paraît bien encore quand même.
Ouais.
La Kia Carnival. Si ça tente d'avoir... Parce que moi, comme je te dis, je défends beaucoup les mini-fourgonnettes. Moi, je crois que la plupart des gens qui pensent avoir besoin d'espace se perdent de l'espace en allant choisir un VUS. Là. T'achètes une vanne, tu peux rentrer des plywood là-dedans. C'est pratique longtemps. T'as payé une fois, t'as gardé le plus longtemps que tu peux. Tes enfants vont à l'université, t'es fait apprendre à conduire sur ce char-là. C'est un véhicule qui peut tellement devenir pratique longtemps que j'ai l'impression que les mini-fourgonnettes, c'est une solution pour bien du monde, puis on l'oublie trop rapidement.
Ah, juste hier, je sortais de l'épicerie.
C'est tellement agréable conduire ça. Là.
Juste hier, je sortais de l'épicerie, puis j'en avais plein les mains. Là. J'avais oublié d'amener mes sacs, fait que j'en avais plein les mains. Je fais juste peser sur le petit piton, puis la portière de côté s'ouvre seule. Mais c'est magique. Mais c'est magique. Fait que c'est ça. Puis je me suis destiné. Ça, c'est une autre affaire que les assureurs devraient réfléchir. Je comprends que. Bon, c'est des spécialistes en mathématiques qui travaillent là-dessus, puis t'as le côté responsable, non responsable, puis les situations aussi. Mais moi, j'ai sauvé énormément d'argent à ma compagnie d'assurance en me tirant dans le banc de neige.
Oui.
Mais je vais être pénalisé parce que je me suis tiré dans le banc de neige. Si j'avais rentré dans le tapon, là, quitte à tuer du monde ou à blesser du monde, là, la compagnie d'assurance aurait dit « Ah ben monsieur, vous n'êtes pas responsable. » Même si j'aurais fait un méga dégât puis j'aurais scrappé mon char, là, je l'ai tiré dans le banc de neige puis je vais être considéré comme responsable.
Ouais, c'était pour la sécurité de tout le monde puis t'as pris une bonne décision.
Mais ça, les actuaires, ils calculent pas ça?
Non.
Mais ils devraient le faire.
Oui, oui, on est d'accord. Mais il n'y a pas juste une chose de même qu'ils ne font pas, là, selon moi, au niveau des assurances automobiles. Là.
Et hey, j'ai tout fait. Là, je leur ai envoyé parce qu'il y a un article de journal qui a été fait à cet effet-là. L'accident, le carambolage à cet endroit-là. J'aurais même envoyé ça. J'ai gardé. Là, vous me voyez sur la photo. Là. J'étais à l'autre bout. J'ai choisi de rentrer dans le banc de neige puis regarder les véhicules qui sont là qui sont tous poqués. Là. Ça, c'est là-dedans que je rentrais. Puis vous me dites que je vais être responsable quand même. Oui, monsieur, ça fonctionne pas comme ça.
Non.
Puis tu veux pas l'insulter, mais dans ta tête, tu dis « maudite gang d'épée ».
Ben vraiment, tu le penses. Ben oui, tu le penses. Puis j'espère. Mais regarde, moi, je suis content que tu aies pris la décision, par contre, pour la sécurité de ton monde dans l'auto.
Puis les gens qui étaient à l'extérieur du véhicule, ça, moi, je fais jamais la morale à personne. Là. Mais parfois, j'apprends des choses dans la vie, puis j'aime ça en faire part à mes auditeurs. Sortir sur l'autoroute... Jamais. Puis faire des signaux aux gens d'arrêter quand vous êtes dans le milieu de l'autoroute, c'est jamais la bonne idée. Au pire, tassez-vous complètement sur le bord de l'autoroute, embarquez sur le banc de neige, faites des signaux, mais restez pas là. Hey, les gens, ils devaient se tasser parce qu'ils allaient se faire tuer.
Non, l'idée, c'est de rester dans l'auto. Là, souvent, ce que je disais, là, c'est que l'idée, tu essaies de rester dans l'auto quand il y a un arrêt de mouvement qui se fait, que tu vois que là, il y a moins de voitures qui se tamponnent. Là. Si tu es capable de débarquer rapidement du véhicule, d'aller de l'autre côté du garde-fou. C'est vraiment la chose à faire. Il ne faut pas rester sur le bord du chemin parce que si jamais il y a un semi-remorque qui arrive, un véhicule plus pesant qui arrive puis que lui n'est pas capable d'arrêter, là, ça fait des dommages. Puis c'est là qu'il y a souvent des décès.
C'est arrivé hier, 140. Mmh. Une dame qui avait perdu son chien. J'ai vu ça dans le journal de Québec, journal de Montréal. Elle avait perdu son chien, puis à un moment donné, elle a dû sortir de son véhicule sur l'autoroute 40 pour traverser l'autoroute à pied, prendre son chien dans ses mains, puis quand elle est revenue, il y a un char qui est passé. Merci, bonsoir. Perd la vie, jeune vingtaine. Elle est décédée, puis son chien aussi est décédé dû à l'impact, bien entendu. Quelle tristesse. Restez dans votre véhicule.
C'est vraiment dangereux. Ça va vite. T'sais, les gens roulent vite, puis des fois, c'est... T'sais, oui, les voitures sont mieux équipées, ils ont des systèmes d'avertissement de collision, quoi que ce soit, mais tu arrives à 115 km/h sur l'autoroute, tu vois pas la personne, puis à 10 mètres, tu mets un break. Il n'y a pas un char qui arrête.
C'est fini.
Il n'y a pas un char qui arrête.
Non.
Il n'y en a pas un. Là,
c'est fini.
C'est vraiment... Tassez-vous du chemin.
En tant que chroniqueur automobile, est-ce que tu t'es penché sur la fameuse guerre des tarifs entre les États-Unis et le Canada? Est-ce que il y a déjà des entreprises qui commencent à se dire, ben, savez-vous quoi, on pensait s'établir au Canada, on va peut-être faire notre usine aux États-Unis parce que le Grand Orange fait trop peur, puis ils vont nous donner des subventions, ils vont nous aider, on paye moins cher d'impôts. T'as-tu commencé à voir ça?
On en voit... Oui et non. C'est un peu ça ma réponse actuellement. C'est que, tu sais, puis j'ai pas eu le choix de m'embarquer dans la guerre tarifaire, là, plus que je le voulais personnellement. Là. Mais c'est sûr que ça touche notre domaine directement, notre domaine automobile, parce que on a des usines en Ontario de fabrication de véhicules, mais on est aussi un marché qui achetons de la voiture, tu sais. Oui, on est moins nombreux au Canada. On est définitivement beaucoup moins nombreux. Puis on est un marché automobile moins important que les États-Unis, clairement en volume. Ça, c'est définitif. Mais on achète quand même beaucoup de voitures aussi au Canada. Il ne faut pas quand même sous-estimer le pouvoir d'achat des Canadiens là-dessus. Et la guerre tarifaire, ce qu'elle amène beaucoup, c'est tout dans la chaîne de production des véhicules, le problème. Hein. C'est, tu sais, présentement, avec l'entente qu'on avait, qui sera plus bonne clairement, mais l'entente qu'on avait, c'était de dire, bien, le morceau de métal qu'on a besoin pour faire l'auto est produit en Saskatchewan, traverse les douanes, se rend jusqu'au Mexique pour l'assemblage dans les usines mexicaines, puis se retourne dans les pays, soit au Mexique ou retourne aux États-Unis et au Canada pour être vendu sur le marché. Fait que, c'est un long processus de pièces qui se promènent à gauche puis à droite. Puis avec les tarifs qu'on va avoir au niveau des douanes, mais le problème, c'est que le 25 % augmente le prix à chaque fois qu'il y a une étape qui est faite dans la fabrication des véhicules. Fait que ça peut vraiment augmenter rapidement la facture totale d'une voiture. Puis déjà, que je viens de le dire tantôt, mais l'augmentation des prix des véhicules est rendue presque inacceptable pour la classe moyenne. Tu peux pas arriver avec un prix en plus qui explose de nouveau, tu sais. Surtout pour des constructeurs locaux, tu sais, qui ont des usines locales. Mettons que je prends Honda, Toyota, Ford aux États-Unis, GM et compagnie. Tu sais, ces entreprises-là qui produisent plusieurs véhicules dans les pays, justement, ben si tu arrives pour acheter un Hyundai Elantra qui est construit en Corée du Sud, qui lui passe aucune douane, arrive directement au Canada, que Hyundai peut encore vendre autour de 25-26 000, mais que ton accent de ta Civic, t'avant 40 maintenant, ben, j'exagère, mettons 35, parce qu'elle a passé à travers les douanes et compagnie, mais il y a toujours bien 10 000 de différence entre les deux chars, puis c'est deux chars qui se concurrencent très sérieusement. Ouais. Là, fait que ça devient zéro avantageux. Fait que là, ce qu'on voit comme mouvement, c'est de la réorganisation des chaînes de montage. faut savoir qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire la chaîne qui existe actuellement, on la défait et elle n'existera plus. Elle va, selon moi, toujours exister. Elle ne peut pas disparaître comme ça. Les entreprises ont investi beaucoup trop d'argent dans ce modèle-là pour dire que du jour au lendemain, on l'éponge. Le problème qu'on va avoir, c'est que ces entreprises-là, exemple, je suis GM. Je décide de vendre, de rapatrier toutes mes usines canadiennes et mexicaines aux États-Unis. Mais pour faire ça, ça me demande de la liquidité en énorme quantité. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent pour le faire. Ça me prend du temps. Il faut que je construise ces usines-là, il faut que je les mette au monde. Il faut que j'ai le personnel pour le faire aussi. Il faut qu'il y ait des gens qui transforment leur carrière puis qui deviennent dans les usines des travailleurs d'usine. Bref, beaucoup d'éléments techniques ultra importants, mais surtout très monétaires. Et pendant ce temps-là, mais qu'est-ce que je vends? T'sais, si mes chars que j'ai à vendre sont encore dans la même chaîne d'avant, ben eux vont connaître l'augmentation de prix. Mm-hmm. Fait, est-ce que mes ventes vont diminuer? Probablement. Fait que, si je ne suis pas capable de vendre suffisamment mon volume que je suis posé de faire en tant que constructeur, mais qu'en plus, je sors de mes poches des centaines de millions, des milliards de dollars dans la construction d'usines comme ça, mais comment je vais y arriver à quelque part? Ça marche comme pas. Fait qu'il y a beaucoup d'usines qui vont... Il y a beaucoup de compagnies, des constructeurs qui pourraient faire faillite en essayant de rapatrier leurs usines aux États-Unis.
Je peux pas croire que Trump a pas de pression par rapport...
Énormément. Mais c'est pas pour rien que quand les 25% ont été appliqués un moment donné, là, je sais plus quelle fois, là, mais quand il y a une fois que c'est arrivé et que les constructeurs ont appelé, puis finalement, le lendemain, c'était tout sauf les produits automobiles. Là. Ouais. Les téléphones ont sonné à gauche puis à droite. Là. C'est sûr que t'avais un Ford au téléphone, t'avais un Stellantis au téléphone, t'avais un GM au téléphone, puis les autres étaient comme « Oublie ça, là, on vendra plus de char. » On n'y arrivera pas, là. Mm-hmm. Ça marche plus. Là. Fait que ça, clairement, il y a un enjeu majeur avec ça. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des constructeurs qui ne veulent pas perdre certains acquis, comme Hyundai. Ont annoncé hier qu'elle allait investir 5... Ben, c'est 21 milliards qu'on va investir aux États-Unis en 4 ans. Il y a 5,8 milliards de ça qu'on sait où il s'en va. Le reste, on ne sait pas encore. Mais ça va être pour construire une fonderie en Louisiane. On va construire une fonderie pour assembler des pièces qui vont être nécessaires à la construction des véhicules électriques de la marque. Là, c'est le président a fait un beau post sur Maison-Blanche, puis bravo, grâce aux tarifs, la pression fonctionne. Moi, entre vous puis moi, j'ai vraiment des doutes sur les... Est-ce que le plan que Hyundai avait est arrivé du jour au lendemain à cause des tarifs? Moi, je pense que ça fait longtemps que c'est dans les cartons.
C'était prévu d'avance, ouais.
Clairement. T'sais, ça prend un site, ça prend de l'argent, ça prend une vision stratégique de production. Tu peux pas rien que te dire du jour au lendemain, ah oui, à cause que le monsieur Orange a mis des tarifs, je me mets une grosse usine là-bas de 5,8 milliards.
Non, ça marche pas de moins.
Ben non. Fait que bien sûr, il fait du capital avec ça. Fait que moi, c'est pas écrit, là. C'est en arrière de... Je le sais pas. On jase, mais mettons que dans ma perception des choses, clairement, Hyundai avait déjà ça dans la tête de faire une usine là. Parce que c'est logique, on va fournir la demande locale en pièces pour construire les voitures nécessaires aux États-Unis. Fait que ça ne veut même pas nécessairement dire que ce qui va arriver de cet investissement-là va traverser les douanes.
Puis t'as l'Organisation mondiale du commerce qui vont devoir se pencher là-dessus, là, sur les tarifs, les contre-tarifs et tout ça. Puis, tu sais, on regardait dans la Constitution, là, le président a le droit de faire ce genre de truc-là s'il y a un état d'urgence aux États-Unis. Mmh. Puis j'imagine qu'il a été bien informé parce qu'il s'est ajusté là-dedans en disant « Oui, c'est le fentanyl ». Là, le fentanyl, il provient du Canada. Finalement, on regarde les statistiques, c'est 1% du fentanyl qui provient du Canada qu'on retrouve aux États-Unis. Il mentionnait aussi que le Canada était une vraie passoire pour ce qui est des migrants qui, exemple, pouvaient partir du Mexique, atterrissaient à Montréal et par la suite, de Montréal, prenaient un taxi puis s'en venaient vers les lignes puis trouvaient des endroits dans le bois pour passer. Le gouvernement canadien s'est penché là-dessus. Les différentes provinces se sont penchées là-dessus. Même François Legault a envoyé plusieurs patrouilles de la Sûreté du Québec aux abords des frontières. Il y a eu un travail qui s'est fait. Quand l'Organisation mondiale du commerce va se pencher là-dessus, elle va dire au président, ça n'a pas lieu d'être. Là.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, clairement, moi, j'ai l'impression que les constructeurs, présentement, ce qu'ils essaient de faire, c'est de, comme tu dis si bien, ils savent très bien qu'il y a des choses qui s'en viennent avec les réglementations que l'Organisation mondiale va faire autour de ça. Moi, ce que j'analyse beaucoup dans ces décisions-là, c'est beaucoup de juste continuer à développer. Parce que Hyundai n'a pas dit on ouvre une fonderie pour continuer les usines qu'on a actuellement, qui sont les usines de Palisade pour le Hyundai Palisade ou le Kia Telluride, qui sont deux exemples de produits qui sont assemblés aux États-Unis. C'était pas ça du tout. Là, les autres sont comme non, c'est pour fournir nos prochains véhicules électriques. Fait, dans le fond, c'est une vision d'avenir, c'est une vision de développement de prochains véhicules.
Ouais.
Fait clairement, c'est juste pour survenir à un besoin qu'ils vont avoir. Mais il faut aussi savoir que la Corée du Sud utilise beaucoup militairement les États-Unis pour se défendre contre la Corée du Nord. Parce que le militaire de la Corée du Sud est appuyé par les États-Unis normalement là-dedans. Fait que le pays en tant que tel, la Corée du Sud, se doit d'avoir des relations avec les États-Unis qui sont de bon augure. Fait que de faire des annonces comme ça, qui a l'air de plaire au président énormément présentement, ben, je pense que c'est très stratégique, pas juste de Hyundai, c'est une décision politique à quelque part aussi. Puis ça se peut qu'Hyundai ait eu un coup de téléphone. Hey, là, le projet que vous aviez, là, on va le faire. Là, on va la construire, la fonderie. Là.
T'as-tu entendu parler, bon, avec les tarifs, les contre-tarifs, les menaces et tout ça, t'as-tu entendu parler que les concessionnaires de use, de usagers, allaient se mettre quelques véhicules de côté?
Oui. Ce que je sais qui pourrait arriver, si on a vraiment une vraie guerre tarifaire sur l'automobile, parce que là, c'est pas le cas actuellement.
Non.
Là. Mais mettons que ça arrive, ce qu'on va sûrement connaître, c'est que ça va être les bonnes années pour la voiture neuve qui sont dans les cours. Les concessionnaires qui vont réussir à accumuler du stock vont être quand même assez avantagés parce qu'eux sont protégés du prix. Je parlais avec Benoît Thérien, qui est le président... pas Benoît Thérien, excuse-moi, Denis Leclerc de Albi le Géant. Puis je parlais avec lui il n'y a pas longtemps, j'ai fait un épisode avec lui. Puis quand on a discuté, il m'expliquait un peu que eux, les concessionnaires, les groupes de concessionnaires, ils ont du volume qu'ils peuvent avoir pour avoir des prix garantis, des prix protégés. T'sais, ils ne peuvent pas, eux, dire « OK, j'achète le Subaru Forester au constructeur » parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Les concessionnaires achètent aux constructeurs des véhicules qui, eux, ils rentrent ça dans les cours. Puis après ça, eux doivent les vendre. Puis c'est là qu'ils font leurs produits, qu'ils font leur profit. Fait que dans cette chaîne-là, tu peux pas, en tant que concessionnaire, acheter, exemple, à 30 000 $ un véhicule, puis à cause des tarifs, maintenant, il va te coûter 37. Ça marche pas, là. Tu peux pas y arriver financièrement. Tu vas pas être capable de faire de la rentabilité. Tes concessionnaires vont fermer. Fait que ce que j'ai compris, puis comment ça a l'air de fonctionner, c'est qu'il y a des concessionnaires qui vont se refouler de char. On va avoir des voitures dans les cours. On va vendre ces véhicules-là avec les prix qui sont annoncés actuellement. Mais ce qui va arriver rapidement, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui, par risque ou par augmentation des futurs des prix des véhicules, vont se tourner vers l'usager. Fait que là, on risque de revoir arriver un secteur de l'usager...
Comme la pandémie.
...qui va manquer de char.
Ouais.
Parce que là, pour l'instant, on a l'air d'avoir retrouvé un équilibre intéressant. On a de plus en plus de voitures disponibles. Toujours le volume de voitures disponibles dans l'usager qui va dicter justement un peu comment ça se passe actuellement. Là, on voit des prix qui descendent, des promotions qui reviennent. On entend des choses, là. T'sais, on le voit...
Pendant la pandémie, j'ai un de mes chums qui a vendu son GMC... je me trompe pas, il avait payé 110, 120, puis il l'a repayé, ça faisait 3 ans qu'il l'avait, il l'a repayé, il l'a revendu le même prix qu'il l'avait payé.
Oui, oui, exact.
Ça y a coûté absolument rien.
Oui, ça, on a vu ça,
ce
parce qu'il y avait besoin, il n'y avait plus de volume dans l'usager.
Ouais.
Ça serait un risque qu'on pourrait voir revenir. Ça serait pas à court terme, ça prendrait un certain temps. Ce qu'on pourrait voir, c'est que dans le véhicule neuf, ça va se garocher vite. Au début, dans le court terme d'une guerre tarifaire sur l'automobile, on va se garocher, nous, vous et moi, on va aller acheter des chars neufs le plus vite possible parce que ceux qui sont dans les cours, ben, ils vont devenir plus intéressants au niveau de l'argent.
Ouais.
Ils vont être moins chers un peu. Mais après ça, ce qui va arriver de l'autre bord, c'est qu'il y a plusieurs personnes, comme moi, par exemple, qui vont se dire « Ben, j'y ai pensé dernièrement. Là. Moi, j'ai mon auto. Je me dis « Ben, elle est payée, elle est à moi. » Je la garde. Là, présentement, moi, je me dis « Je vends pas ça. » Je l'ai entretenue, je m'en occupe super bien. Elle est vraiment droite comme véhicule. Elle va bien. Je vends pas ça. Là. Fait que présentement, je me dis « Ben, je vais l'entretenir. Je vais m'en occuper. » Mais si moi et 10, 20, 40, 50 000 autres personnes retardons notre projet d'acheter un véhicule.
Ça a un impact.
Mais ça a un impact sur le volume de véhicules disponibles dans l'usager.
Exact.
Fait que là, on va créer cette espèce de, pas pandémie, mais cette problématique où on va avoir des gens qui vont se payer beaucoup trop cher des véhicules usagés, comme on a vu dans la pandémie, justement. Puis oui, il va falloir surveiller ça de proche parce que à moyen terme, c'est l'usager qui va manger la claque.
On est avec le chroniqueur automobile Samuel Tremblay-Michaud. Vous voulez en savoir plus sur Samuel Tremblay-Michaud et son travail? On peut aller directement sur le site de RPM.
RPMweb.ca, le podcast RPM aussi. Hein, c'est moi qui ai le privilège d'animer ça.
Ben
c'est,
oui.
C'est un beau petit podcast. C'est
bon
là.
En plus, c'est amélioré.
Et je travaille sur ce que je fais. Là, j'aime ça. mais si jamais ça vous tente de parler de char, là, j'aime tellement ça. Je réponds à tout le monde tout le temps. Là, j'essaie. Là.
Ben oui.
Fait que c'est le fun. C'est un beau projet.
Dans le dernier podcast, t'en as fait un avec Benoît Thérien de Truck Stop Québec.
Yes.
Vous avez parlé de camionnage.
Oh oui, on a parlé de camionnage.
Puis t'en as fait un avec Maître Marc Bellemare.
Oui.
C'est deux individus que j'adore. Cool. On fait une courte pause et on vient.
Marceau, le soir. Rage against le matin. Steven Blaney, merci de passer nous voir. Le premier défi, moi, j'étais ingénieur civil. Avant de faire de la politique, j'ai fait 20 ans de balancement de réseau d'aqueduc. Hey, j'ai encore mes bottes de surveillant de chantier de 93, de Spatial, de Sorel.
Allez voir les travailler ces chantiers à Lévis.
Ben, je vais sûrement aller voir les travaux. Moi, j'ai commencé comme surveilleur de chantier sur des travaux d'égouts aqueducs, donc les tranchées, tout ça, la protection contre le gel. Il m'appelait Steven Proctor Blainé, parce que Proctor, ça, c'est la compaction. Tu sais, quand tu fais une route, il faut qu'elle soit bien compactée si tu veux pas qu'elle vienne toute gondolée. Ça, c'est une machine nucléaire qui fait ça. Puis là, moi, j'étais Steve sans compaction. Il m'haïssait, parce que, tu sais, c'était 93,5. Non, 95.
Ah ouais.
Bon, fait qu'il m'appelait Steven Proctor Blainé ou Steven Beaumac Blainé. Les gens qui connaissent la construction savent que c'est des compacteurs.
Ouais.
Fait que c'est ça. Fait que j'étais un petit peu zélé, là, mais je voulais des beaux travaux.
Rage Against le matin. Tous les jours en semaine, 6h. Sinon, vous retrouvez tous nos coups de circuit sur le blvd.fm. C'est ça.
Si je dis le plus vieux stade de baseball en Amérique du Nord, Aerosmith, le but gagnant de McDavid pour le Canada, et Harvard.
Boston, baby! Oh yeah! C'est le grand retour du rock'n'ball! Puis cette année, ça se passe à Boston.
Tu pourrais gagner tes billets pour le show de Linkin Park avant leur passage au Canada et pour voir les Red Sox au mythique Fenway Park en août prochain.
Puis je te dis ça de même, là, mais regarde dans ta poche en arrière. Il y a 500$ d'argent inclus, puis on a même pensé à ton transport puis ton hébergement avec un crédit voyage.
Hey, une virée à Boston sur le bras de Desharnais, c'est juste parfait.
Reste à l'écoute. Quand t'entends une toune de Linkin Park, note l'heure pour l'inscrire au blvd.fr.
Parce qu'on sait jamais, in the end, tu vas peut-être te retrouver à Boston grâce à Boulevard 102.1, Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécaniques.
Magasinez votre prochaine piscine hors terre chez Piscine Beauport. Investir dans du temps de qualité en famille n'aura jamais été aussi accessible avec nos promotions sur les piscines hors terre en inventaire. PiscineBeauport.com.
Le marché immobilier est en feu plus que jamais et il est en faveur des vendeurs. Le manque d'inventaire sur le marché et le nombre élevé d'acheteurs est en votre faveur. N'attendez plus. C'est le temps de vendre avec Patricia de Guara et son équipe. Patricia et son équipe.com.
Bonne nouvelle! Desjardins Autocollection est le numéro 1 des ventes au Québec en 2024. Obtenez le F-150 2025 STX en location à 299 $ plus taxes aux deux semaines et le Maverick XLT 2025 en location à 225 $ plus taxes. Détails des offres sur place. Desjardins Autocollection, sur la rue Marais à Vanier. À Québec, un Ford, ça se branche
chez Desjardins Ford. Les huîtres fraîches et les ailes de poulet fumées maison sont à seulement 1 $ tous les jeudis au Phoenix. Venez vous gâter et profiter de nos 4 différentes ambiances pour le reste de la soirée. Réservation phoenixduparvis.com.
Imaginez un réveil sans réveil. Tous vos soucis qui s'envolent. Et la magie des bonheurs complices. Voilà, vous ressentez le nouveau Brunswick.
Depuis plusieurs semaines, Simon est découragé. Il se sent impuissant. Dans sa classe, la petite Raphaël fait souvent des crises. Elle le frappe, lui lance des objets. Même à 6 ans, la violence n'est jamais banale. À bout de souffle, Simon songe à quitter sa profession, même s'il n'enseigne que depuis 3 ans. La violence fait des victimes dans nos écoles. Pour la contrer, on a tous un rôle à jouer. Un message de la FSE, CSQ.
En juillet, au Festival d'été de Saint-Georges, Papa Roach, Sarah Dufour, Talk, Charlotte Cardin et bien d'autres.
Vivez un événement unique à 1 heure de Québec avec la chaleur des Beaucerons. Passeport en vente sur lefestival.ca. On vous attend du 16 au 19 juillet.
Pourquoi ne pas vous organiser une petite escapade romantique? Pas besoin d'aller loin, car l'Hôtel Champlain dans le Vieux-Québec est juste parfait. Mercado.fm vous propose un forfait gastronomie et hôtel au cœur du Vieux-Québec, comprenant une nuitée en chambre supérieure pour 2 personnes à l'Hôtel Champlain, incluant le petit déjeuner et un certificat cadeau de 100 $ au Bistrot L'Atelier ou au restaurant Ophélia, le tout pour seulement 199 $. L'Hôtel Champlain, un bâtiment historique alliant confort et modernité, parfait pour s'y retrouver à deux. Offre limitée, valide jusqu'au 30 avril au mercado.fm.
L'usine fait son grand ménage du printemps. 25 à 50% de rabais sur les démonstrateurs, boîtes ouvertes et plus, jusqu'à épuisement des stocks. Des meubles distinctifs et confortables qui ont le pouvoir de changer toutes les pièces de votre maison. Uniquement à la boutique L'Usine de Place de la Cité.
Propulse ta carrière au Centre de formation professionnelle Samuel de Champlain. Nos programmes innovants en administration
administration, construction, maintenance et bâtiments, mécanique conseil et vente te prépareront au défi de demain. Inscris-toi au cfpsc.qc.ca.
Les feuilles de temps papier, c'est archaïque. Évite les erreurs coûteuses et rends ton processus plus simple et efficace. Passe immédiatement à Mobile Punch et économise temps et argent. MobilePunch.com.
Vous cherchez un traiteur qui allie fraîcheur et qualité? Équilibre Traiteur est la référence depuis 14 ans. Boîte à lunch, cocktail raffiné, buffet, banquet, bref, tout pour vos petits et grands événements. Profitez de produits locaux, frais et d'un service personnalisé. Équilibre Traiteur, votre traiteur.
Chez Volkswagen Saint-Nicolas, découvrez le Volkswagen Tiguan 2024 pour plus de performance et plus d'économie. Profitez de 1 000 $ de rabais et d'un taux de financement de 0% sur 60 mois sur le Tiguan 2024. Volkswagen Saint-Nicolas, ça clique avec Saint-Nic.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien. Vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. On est avec le chroniqueur automobile Samuel Tremblay-Michaud. Ce soir, on parle du merveilleux monde de l'automobile et du camion, parfois. Plein de choses à jaser avec toi, Sam. Bon, on parlait de Hyundai qui a décidé de faire un méga gros projet aux États-Unis. Ce qu'on se posait comme question, c'est-tu en raison des menaces de tarifs ou c'était planifié d'avance? Maintenant, ça me tente de parler d'un autre cas qui me tient très à cœur, puisque j'ai des actions Tesla. Et ça n'a pas été facile dans les dernières semaines, quoique cette semaine, ça va relativement bien.
Ça remonte un peu.
Mais de voir la haine qui est arrivée sur ces automobiles-là, que ce soit pour les Cybertruck, ça, la haine était déjà entamée depuis...
depuis la création du véhicule.
Un bon bout, là. La plupart des gens le trouvaient laid. Moi, je me disais que ça faisait différent. Puis quand tu sortais de chez Costco, tu savais il était où ton véhicule. Mais ça a l'air que c'est pas une raison pour aimer ce véhicule-là, mais des gens qui avaient des Tesla qui se sont vus égratigner leur peinture juste parce qu'ils sont des propriétaires Tesla, c'est hallucinant, ça.
Vraiment, puis c'est devenu un emblème de manifestation. Là. C'est ça qui est un peu les dommages collatéraux de tout ce qui se passe de l'autre côté, puis du président Elon Musk, là, ouais. Du président de l'entreprise. C'est drôle parce que j'ai dit président Elon Musk, mais c'est pas le président des États-Unis, mais quoi que. Mais c'est ça, tu sais, ça amène vraiment les gens à manifester. C'est devenu vraiment un produit de manifestation.
Ouais.
C'est plate parce que ça touche des gens qui...
qui n'ont rien à voir avec
absolument
ça.
Absolument pas.
Qui ont un maudit bon véhicule.
Puis à la base, tu sais, quand les gens ont acheté des Tesla, puis c'est un peu... paradoxal, parce que quand les Tesla sont arrivés, puis je vais toujours m'en souvenir, quand quelqu'un avait une Tesla, le sentiment de fierté qu'il avait. Tu sais, cette personne-là avait un véhicule qui était fier, que les gens, dans les parties de Noël, on allait voir l'auto, puis là, on découvrait les nouvelles manières de faire, puis là, les gens disaient, moi, jamais un char électrique. Puis là, finalement, ils faisaient un tour de tout ça, puis ils capotaient sur l'accélération, puis
ouais.
Sur l'ambiance qu'on a à l'intérieur, les matériaux qui sont de correcte qualité, mais bref, ça dépend des modèles. Mais tu sais, Tesla a quand même toujours eu une voiture très technologique qui est encore aujourd'hui, que vous le voulez ou non, là, un bon choix dans le domaine de la voiture électrique.
Ouais.
Ça reste que le produit en tant que tel, niveau performance, autonomie, recharge, réseau de bornes, efficacité générale du produit, reste encore très, très bon. Non, c'est pas fiable, mais les véhicules électriques, en général, ne le sont pas non plus. Donc, on est vraiment dans une situation où le produit est devenu une cible de manifestation, mais en tant que tel... la voiture puis les gens qui en possèdent
ne sont
pas nécessairement d'accord avec tout ce qui se passe. T'sais, j'ai vu des manifestations, des gens qui peinturaient la canette des véhicules, on mettait des signes nazis sur les autos. Puis, c'est peut-être le professeur de votre enfant qui avait juste acheté une Tesla. T'sais. Laissez-le tranquille. T'sais, maintenant, là, je comprends qu'on n'est pas d'accord puis qu'on fasse des mouvements pour en parler puis que les gens disent on pointe ça du doigt. Puis, moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de voir des ventes diminuer. T'sais, quand tu vois une entreprise comme Tesla qui chute rapidement de même en bourse puis que les ventes partout dans le monde, sauf dans deux pays. Là. En février, il y a juste l'Angleterre et les États-Unis qui ont connu une augmentation des ventes. Mais partout ailleurs, là, c'est des 70 % de perte de ventes à grandeur du monde. Là. C'est comme vraiment... T'sais, ça, ça parle.
Il semble reprendre du poil de la bête cette semaine, là, du moins la.
Un peu, mais là, Elon Musk, je sais qu'Elon Musk a parlé avec les investisseurs de Tesla pour essayer de leur dire que ça allait être une période trouble, ça va repasser. Fait que je pense que c'est relié beaucoup à ça. Mais à voir et à suivre. Si vous voulez manifester, achetez-en pas.
Ouais.
Mais de briser les biens de quelqu'un, je pense pas que ça aide non plus.
Ben, c'est criminel. Là,
premièrement, là, oui, là, premièrement, c'est criminel. Puis
Est-ce que ça t'a surpris, toi, le rappel pour ce qui est des Cybertruck? Parce que ça a l'air que les panneaux étaient pas bien collés.
Ça me surprend, oui, puis non, parce que, tu sais, le Cybertruck, c'est un véhicule qui avait beaucoup de nouveautés. Je peux même prendre le mot audace.
Mais je dis, nouveauté, j'ai embarqué là-dedans, là. Sérieux, moi, le véhicule, je le trouvais différent, OK? Puis je me disais, bon, j'haïrais pas ça. Mais quand j'embarquais dedans, il n'y a rien là-dedans, là.
C'est vide. Oui, mais c'est comme ça, Tesla, c'est très épurant dedans, là.
Je comprends, mais il n'y a rien de sexy. Il n'y a rien.
Ben, c'est
pas beau.
Ben, c'est pas beau, c'est aussi, tu sais, honnêtement, moi, personnellement, j'ai jamais trouvé non plus que le Cybertruck était un produit très beau visuellement. J'aime, encore une fois, les choses différentes. J'ai un Kia Soul pour faire des déplacements. Je dis, c'est mon angle de service. Là.
Ouais.
C'est mon angle. T'sais. Mais j'ai un Kia Soul que j'aime parce qu'il y a un style un peu différent. Tu sais, j'aime les choses qui sont un peu différentes. Mais là, je pense que c'est pas nécessairement de bon goût. Personnellement, pour moi, là, c'est pas un produit que visuellement j'aime beaucoup regarder. Est-ce que je comprends les gens d'en acheter? Absolument, parce que des fois, les gens aiment l'audace. Maintenant, l'histoire que tu parlais des panneaux, tu sais, c'est des panneaux qui tombent, littéralement. Tu as comme des morceaux sur le véhicule. Mettons, tu as le pare-choc en avant, puis tu as ta plaque de panneau qui est là, elle tombe à terre.
Oui, mais ils m'avaient vendu ça comme un véhicule indestructible, là, que tu pouvais être un gangster, te faire tirer au travers des vitres, puis que la balle tombe à terre. Là, c'est les panneaux qui tombent. Là.
Oui, puis tu sais, le problème, c'est que c'est une colle qu'on a utilisée qui tenait ce panneau-là, puis dans certains états où ce qui fait chaud, ça se peut qu'effectivement ça tombe, puis l'acier inoxydable tombe à terre. Fait que là... Mais tu sais, quand je te parle de nouveauté dans ce véhicule-là, c'est justement les panneaux d'acier inoxydable.
Tu achètes un char à 170 000, c'est ça?
Ah, 130.
130, ouais. Puis les panneaux tombent à terre.
Non, mais il n'y a rien de plus fâchant sur la terre. Mais tu sais, quand je te dis c'est plein de nouveautés, c'est ça aussi. Le Cybertruck arrive avec son style, avec ses idées dedans, dont l'utilisation, puis je venais de le dire, mais d'acier inoxydable. Tu sais, on utilise de l'acier inoxydable autour du véhicule. Il n'y en a pas d'autres, des véhicules comme ça. Fait que c'est sûr et certain que ça amène ce genre de peut-être problématique-là. C'est un véhicule test aussi. Tu sais, tous les nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché, que ce soit un Tesla, que ce soit un Toyota, que ce soit un Honda, généralement, les nouvelles motorisations qu'on amène, bien, il y a une période d'adaptation. Tu sais, Mazda vient de sortir un moteur 6 cylindres en ligne là, pour leur gros VUS, là, les CX-70, CX-90. Une belle motorisation que j'ai suivie il n'y a pas longtemps. C'est un nouveau moteur avec une possibilité d'hybride rechargeable. Puis il y a un autre qui est hybride léger qui vient pousser un peu plus le véhicule. Ça va bien, ça se conduit bien, mais j'entends vraiment beaucoup de problèmes de fiabilité avec ces camions-là, tu sais, énormément. Puis moi-même, j'ai vécu des check engines sur mon véhicule d'essai. J'ai eu des problèmes avec mon véhicule d'essai moi-même. Puis des fois, je me dis, tu sais, Mazda, pourtant, vend un CX-5, c'est un produit qui est d'une fiabilité exemplaire, tu sais. Puis on a plein de genres de produits comme ça dans l'alignement qui sont des produits exemplaires en termes de fiabilité. Mais celui-là arrive avec une toute nouvelle mécanique qui va devoir prendre du temps d'adaptation, clairement, tu sais. Mais c'est un peu le même principe pour le Cybertruck. On dirait qu'on... On le bully, là, on est intimidateur avec le Cybertruck parce qu'il est intimidant.
Mais c'est parce que c'est des fois à se demander si tous les tests ont été faits. T'sais.
Clairement pas.
C'est un char, c'est une voiture à 130 000 piastres, puis eux autres, ils n'ont pas pensé de prendre le Cybertruck, de l'amener dans le désert au beau gros soleil, puis après ça, de dire, OK, ça fait 2 heures qu'il cuit, 3 heures qu'il cuit, là, on va aller sur la route voir, puis on va rouler à 120 km/h pour voir si tout tient.
Tu sais, passe à la Tesla Model 3, la première génération qui est arrivée, les fameuses thermopompes qui lâchaient après un hiver parce qu'il n'était pas prêt au froid, tu sais, des thermopompes qui climatisent le véhicule, qui le réchauffent aussi, ça sautait rapidement, ça a été majeur comme problème, des problèmes de suspension parce que les routes d'ici ne sont pas les routes de la Californie, puis un Tesla Model 3, ça se vendait à 55, 60 000 $ pareil, puis quand tu compares ça à un Honda Civic, tu as 30 000 $ de différence pareil entre les deux. Puis là, ben, tu te dis, Colin de Bin, OK, je viens de payer ça 60 000 $ mais j'ai plus de climatisation, mes chocs sont finis après un an, j'ai des problèmes d'alignement de pneus, mon char me bouffe mes pneus, ça me coûte une fortune de tailleur. Tu sais, maintenant, c'est des affaires dans le même que tu te dis, ils n'ont pas pensé, mais l'élément là-dedans, c'est quand tu es un consommateur prêt à payer 130 000 $ pour un Cybertruck, ben ça veut dire que tu es prêt aussi à vivre avec ces conséquences-là, parce que le constructeur, jusqu'à présent, a jamais montré, dans tout son historique, que son premier véhicule qui sort fonctionne bien. Même encore aujourd'hui, les Tesla Model 3, mettons, on a sorti la mise à jour du modèle, puis ça fait du bien, mais on a encore des bobos à gauche puis à droite, puis c'est pas parfait comme véhicule. Fait que rendu là, t'aurais-tu mis 130 000 $ pour t'acheter un Cybertruck?
Non, pas du tout.
Ben moi non plus.
Non. Si on me l'avait donné, je l'aurais pris. Je regardais, c'est hier ou avant-hier, j'ai vu ses réseaux sociaux. Ça se passe sur l'île de Montréal, un Cybertruck qui est pogné dans la neige.
Ah oui!
Puis il y a un pied de neige.
Ah oui!
Un peu, là,
il vire de saut, puis...
Cybertruck! Hein? Puis ça reste pogné dans la neige, dans un pied de neige. C'était surprenant.
Non, mais c'est ça, tu sais, des fois, on dirait que j'ai comme pas envie de victimiser personne là-dedans. Si t'es prêt à mettre 130 000 pour ce véhicule-là,
ouais.
Assume-les.
Mais c'est parce que moi, je m'attendais à ce qu'il soit capable de monter l'Everest. Là.
Ouais, mais...
C'est à la verticale.
Et c'était pas le cas, puis jusqu'à présent, tu sais... Mais la présentation, la première présentation,
oui.
Je te remonte à longtemps, tu sais, quand Elon Musk tirait sur le véhicule,
oui.
Puis il prenait son bat de baseball, les vitres n'allaient jamais casser, il y en a deux coups dedans, les vitres ont éclaté à grandeur. Là.
Ouais.
Déjà en partant, on avait la preuve que ce véhicule-là allait pas survivre à l'apocalypse de zombies. Là, t'sais. C'est pas ce véhicule-là qui va faire ça. Mais on dirait que des fois, ça marche. La marque fonctionne pour des gens. L'idée que le camion est aussi différent, ça fonctionne beaucoup. Puis à la base, tout ce qui le propulse, la batterie, les moteurs et compagnie, c'est des bonnes affaires quand même.
OK. Est-ce que le nombre de rappels actuels te surprend?
Terriblement. Mais me surprend, puis oui, puis non, parce que ça fait quand même un lien avec ce qu'on vient de dire, mais je pense que les tests de qualité dans plusieurs constructeurs n'existent plus. On ne prend plus, à vrai dire, je le sais, là, ça n'existe plus. On a arrêté de faire beaucoup de tests et qualités dans énormément de constructeurs, dans plusieurs produits. Ce qu'on voit maintenant, c'est que nous sommes les testeurs. Donc, on achète un char plus cher que jamais maintenant,
ouais.
En moyenne. On embarque avec ça, puis on teste. On est aussi les testeurs pour savoir si c'est bien fait ou pas le produit qu'ils nous ont donné entre les mains. Ça, moi, je trouve ça aberrant, puis ça se traduit beaucoup par des rappels. C'est hallucinant, la quantité de rappels que j'écris. Sans blague, Yannick, là, dans une semaine, je peux faire 2 à 3 articles sur juste des rappels de véhicules qu'on a au Canada. Ça, c'est sans compter les enquêtes qu'on a par la NHTSA ou par d'autres organismes qui s'occupent de surveiller ça, même comme Transport Canada. C'est hallucinant. Puis c'est pas des rappels souvent qui sont « Ah, on a oublié telle affaire, il manque un collant. » Des fois, ça arrive, il manque un collant réglementaire selon les lois qui dit telle chose, fait qu'il faut coller un collant. T'sais, ça arrive des fois, même parce que c'est comme ça, puis selon les règlements, il manque le collant.
Mais ça c'est du niaisage.
Ça arrive des fois, même. C'est des niaisages.
Ils nous utilisent pour tester un produit qui coûte extrêmement cher, puis ils nous font perdre notre temps, parce que des fois, tu perds ton véhicule pendant la journée, ou parfois, c'est plus longtemps que ça.
Ouais.
Je trouve ça très ordinaire. Ça se demandait si c'est pas intentionnel de leur part. C'est-à-dire, ça coûte tellement cher de faire les tests et tout ça,
exact. Ben
on va les mettre en marché, puis ce sera aux consommateurs de les tester, puis quand ça marchera pas, ils vont nous le dire.
Encore plus que ça, aux consommateurs, mais aussi aux concessionnaires. C'est aussi le réseau de concessionnaires qui va devoir assumer ça à quelque part également. T'sais. Puis ça, ben, c'est juste talent pour tout le monde. Là. C'est de la job, gérer des rappels.
Ben oui.
Il faut que tu envoies les lettres, il faut que les gens se rappellent. Là. La première lettre qu'ils envoient souvent, c'est pour te dire « Il y a un rappel qui s'en vient, mais il n'est pas tout de suite. » Mais qu'est-ce que tu penses que le monde font? Pas qu'un téléphone, appelle directement le concessionnaire le plus rapidement possible. Ben non, c'est pas tout de suite, on va vous rappeler dans 2 semaines. Puis là, c'est toute la chaîne qui fait autour de ça, qui est tannante, qui a géré pour tout le monde. Moi, je suis encore avec toi, je trouve ça aberrant. Puis pour ça, je trouve ça le fun d'en parler, mais tu sais.
Parce que toi, et moi, on fait ça dans une entreprise, là. On fait des erreurs qui coûtent des centaines de millions de dollars, puis on perd notre emploi. Là.
C'est clair.
Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose d'intentionnel là-dedans.
À 100%. Ouais, moi, je crois pas. Moi, je crois pas à « Ah, c'est une erreur banale ». Non, ouais. Non. Il y a des erreurs de fait majeures qui sont volontairement laissées aller. On dit ça, c'est pas grave. Au pire, on fera un rappel. Puis ça, mais je trouve ça aberrant, effectivement. Mais écoute, j'ai juste recensé rapidement quelques chiffres. Là. Mais la semaine passée, j'écrivais sur un rappel des Seltos et des Soul aux États-Unis. C'est 137 000 véhicules qui ont été touchés par ça sur un moteur 4 cylindres 2 litres. Ça va nous toucher aussi au Canada. C'est assuré. Fait que rajoute à peu près un 70 000 véhicules supplémentaires qui vont être rappelés. L'autre semaine d'après, juste Volkswagen a fait 2 rappels en 2 jours pour le ID4 et le Audi Q4 e-tron. Il y a 260 000 véhicules rappelés par Mercedes-Benz, Volkswagen et Ford qui ont été rappelés le lendemain. Puis il y a une ribambelle de rappels qui a été fait chez Ford. Écoute, en quantité, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 11 rappels qui ont été faites dans cette même semaine-là sur 11 modèles différents. C'est 9883 véhicules au Canada qui ont été ciblés par 11 nouveaux rappels. Puis aujourd'hui même, j'ai écrit un article sur une enquête de la NHTSA qui enquête sur les Ford F-150 de 2015 à 2017 pour un problème de transmission qu'on connaissait déjà parce qu'on a eu un rappel l'année passée sur les 2014 pour une transmission qui rétrograde sans le dire. Tu roules sur l'autoroute à 120, ton char se met en 1. Se met en première vitesse.
Ah, mais non.
Les roues bloquent, tu fais une perte de contrôle puis tu te plantes. Il y a 138 plaintes qui ont été... Mais clairement, il y a 138 plaintes qui ont été rentrées aux États-Unis là-dessus. Là, la NHTSA enquête sur 1,3 million de F-150. Hey. Puis la F-150, c'est encore le camion le plus vendu au Canada. Ça fait comme 20 ans. Fait que ce véhicule-là, quand... pensez la quantité de trucks qu'on pourrait rappeler encore ici aussi. Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter, puis je trouve ça... Tu sais, maintenant, les rappels, souvent, j'en parle quand je fais des chroniques à la radio avec vous autres ou j'en parle à gauche et à droite. Je veux juste en parler. Ah, oh, là, il y a un rappel qui est sorti sur telle affaire. Mais là, j'ai envie qu'on se pose toute la question ensemble puis qu'on se dise, nous, en tant que consommateurs, est-ce qu'on est encore capable d'accepter ça? Moi, je vais commencer à faire tranquillement à dire dans mes articles, quand j'essaie des voitures, bien, ce véhicule-là, théoriquement, actuellement, il est rendu à 41 rappels. Ce véhicule-là est rendu à 3 rappels. Fait que s'il y a juste 3 rappels jusqu'à présent, là, moi, là, j'ai plus confiance en celui-là qu'il y en a 3 que lui qu'il y en a 41. Mm-hmm. Puis je trouve que c'est important, tranquillement, de se poser des questions quand on achète un produit aussi cher que ça. Qu'est-ce qui nous dérange? Est-ce qu'on veut avoir un VUS ou absolument une traction intégrale? Ou on est prêt à acheter un véhicule qui va s'être montré plus fiable, qui ne nous ramènera pas tout le temps à faire des rappels à gauche puis à droite? Ça, je pense que c'est une décision que nous, on a à faire en tant que consommateurs, parce qu'il y en a des véhicules qui en ont moins, des rappels. Puis je pense que des fois, ça peut faire pencher la balance. Ça devrait, selon moi, faire pencher la balance de tout le monde. On devrait toujours se poser cette question-là avant d'acheter un véhicule. Puis à un moment donné, si on pose ces actions-là collectivement, bien, on espère qu'à un moment donné, les constructeurs vont revenir en se disant « Ouais, là, on l'a échappé un peu, là. Ça va être le temps de resserrer les vis sur le contrôle et qualité à la fin de la production. » Parce que honnêtement, là, ça fait 3 ans que je suis RPM, comme je disais depuis tantôt. Là. J'ai dû écrire là, facilement une centaine d'articles sur des rappels. Là. Puis c'est des gros rappels tout le temps. Là. C'est jamais des affaires banales. Là. C'est des grosses affaires. Là, puis ça commence à mériter pas mal.
Être sur l'autoroute en 5e vitesse,
tranquille.
Que ça downshift à 1. Tu sais, l'été, c'est tel que tel, tu vas faire un méchant saut.
Ça bloque les roues, là. Les roues bloquent en arrière, là.
C'est ça. Mais c'est tel que tel. Tu vas faire un méchant saut, puis t'es capable de te ressaisir. Ça, c'est si tu tues pas personne. Mais l'hiver, sur l'autoroute, c'est fini.
Dangereux, grave, là.
Tu pars d'un bord et de l'autre.
Absolument.
Est-ce qu'il y a des statistiques positives pour ce qui est des véhicules électriques? Est-ce que la vente de véhicules électriques au Canada, ça va bon train ou on est à la remorque maintenant?
Écoute, ça va moins bien actuellement en 2025, c'est clair.
Ouais.
Clair, avec la disparition des subventions qu'on a eues à gauche et à droite. Là.
Y a-t-il une perte de confiance?
La perte de confiance envers les produits, je pense pas tant. Je pense que qu'est-ce qui s'est passé surtout, c'est que ben on n'a plus d'argent pour les acheter. On a enlevé les subventions de 5 000 $ au fédéral. Au Québec aussi, on a arrêté toutes nos subventions. Théoriquement, puis encore une fois, j'en parlais avec des gens dans les concessionnaires qui me disaient qu'eux, ils croient vraiment qu'en avril, on va recommencer les subventions sur les véhicules électriques au Québec.
OK. En avril?
Oui, c'est en avril. La pause était de fin janvier. C'était février, mars qu'on prenait une pause. Puis en avril, à quelque part en avril, on devait reprendre ça. Moi, honnêtement, j'y crois pas. Là. D'autant plus qu'on parle de déficit monstre au Québec, dans le budget. On en parle encore aujourd'hui, c'est des nouvelles partout. Moi, je crois pas du tout que le gouvernement va remettre. Le plus dur, c'était de l'enlever. Ils l'ont fait. Fait que je sais pas pourquoi ils remettraient des subventions sur les véhicules électriques. D'autant plus que les projets filières batterie québécoise tombent à l'eau un à la suite de l'autre. Les projets de Northvolt, tous les projets qu'on avait à gauche puis à droite qui ont tombé, ben c'est sûr et certain que je vois pas comment ça le gouvernement remettrait de l'argent sur les véhicules électriques. Ça peut revenir. Comme je vous dis, il y a des gens qui me disent complètement l'inverse de moi. On verra qui aura raison rendu là. Mais ce que je vois, par contre, c'est qu'on a quand même immatriculé beaucoup de véhicules dans les derniers trimestres de 2024. Tu sais, qu'on dit qu'il y avait des rabais, justement, bien, on voit les statistiques. Tu sais, il y a quand même 38 392 véhicules au cours du quatrième trimestre de 2024 qui ont été immatriculés zéro émission au Québec, ce qui est vraiment beaucoup, beaucoup
de véhicules. Ça, c'est principalement région, ben mettons, ville... de ville de Montréal puis ville de Québec.
Oui, à peu près. Là, je vous dirais que c'est surtout là parce que c'est là qu'on a un réseau de bornes également qui, ouais. qui est bon. Mais
tout ce qui circule autour de la 20 et la 40, ça doit bien aller.
Mais
si vous êtes un peu plus dans l'ouest, vous partez de Montréal puis vous en allez vers Toronto, j'imagine que les bornes sont assez suffisantes, mais dès que tu t'en vas au nord, c'est fini.
C'est tough, mais en même temps, je suis allé dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une région très bien développée aussi en termes d'infrastructure. J'en vois beaucoup, il y en a beaucoup de voitures électriques là-bas aussi. Puis souvent, moi, comme je parle beaucoup aux gens qui ont des voitures électriques, c'est l'idée, c'est que souvent, tu peux te recharger chez vous aussi. Puis les gens me disent, oh, mais moi, je vais à Montréal, combien de fois? Ben, deux fois par année. Ben, t'arrêteras à manger. des fois, c'est pas la fin du monde.
Il y a une planification de déplacement.
C'est ça. T'sais, souvent, les gens, quand tu fais juste une routine quotidienne avec ton auto, pour vrai, la voiture électrique souvent répond amplement aux besoins des gens, là, sans problème. Fait qu'on voit qu'il y a quand même une popularité qui est là. Mais
l'autre jour, j'argumentais sur un Hummer, les nouveaux Hummer électriques. Là.
Oui, oui.
Ça prend 18 heures de 0 à 100, là, la batterie.
Ben, si t'es à niveau 1, loin.
C'est 18 heures, c'est long.
C'est
puis ce que la personne me disait, c'est ouais, mais là, les gens ils pourront jamais avoir ça. Je vois, mais attends un peu, là, toi, là, est-ce que à chaque fois que tu arrives chez vous le soir, ton véhicule est plein? Chaque fois que tu pars à la job, ton véhicule est plein? Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne.
Voilà.
Je mets mon véhicule, je regarde le trajet que j'ai à faire, je me dis, j'ai-tu assez d'essence? Oui. Je peux même en revenir.
Ouais.
Je calcule mes affaires.
Ouais.
Même affaire pour ce qui est du fameux Hummer électrique, mais c'est vrai que 18 heures, c'est long.
Mais ça emmagasine beaucoup d'énergie.
Exactement.
Il y a 246,8, je pensais que c'est 240, je suis allé chercher pour être sûr, mais c'est 246,8 kWh de batterie qu'on a là-dedans. Fait que ça peut peut-être dire rien, mais c'est comme si vous aviez un réservoir de 200 litres d'essence dans votre véhicule. T'sais, c'est un peu de même,
c'est
tu peux
du
le
stock,
voir.
Là.
C'est un gros réservoir d'énergie qu'il y a là-dedans. Fait que, tu sais, oui, c'est long à charger, mais tu passeras pas 246,8 kWh chaque semaine.
Non.
Ça se peut que tu fasses une semaine et demie sur cette charge-là, peut-être même, là, selon tes déplacements. T'sais. Puis si tu fais une part de la ville, puis tu peux utiliser les modes de régénération aussi, ça se peut que tu fasses plus que deux semaines avec ta batterie. Là. Ça dépend de comment tu conduis avec. T'sais.
Mais c'est pas les chars qui se vendent le plus, là, on va se dire.
Non, puis c'est cher. Puis en toi, puis moi.
J'en ai vu un, moi. J'en ai vu deux. J'en ai vu